J'étais trop jeune, 13 voire 14 ans grand maximum, donc collégienne. À cette époque, je ne recevais jamais beaucoup d'attention. Donc quand ce gars sur Discord a commencé à s'intéresser à moi, j'ai tout de suite été à fond sur lui. Il était à peine plus âgé que moi, mais avait déjà eu plusieurs expériences avec des filles apparemment. Au début de notre relation à distance, tout allait bien. Mais très vite, il a voulu qu'on passe à des choses plus sérieuses et je ne savais pas trop comment réagir à défaut d'autres expériences, donc je me suis juste dit que c'était normal et ça ne me dérangeait pas trop. Mais au fur et à mesure, il a commencé à devenir plus insistant et ne parlait plus que de sujets sexuels et il réclamait régulièrement auprès de moi des photos et autres documents. Il ne finissait par ne plus parler d'autre chose. J'ai même déjà essayé de le ghoster. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai voulu mettre un terme à cette relation. J'ai donc demandé à rompre. Il m'a ensuite menacé d'envoyer mes nudes à mes parents ou à mon collège et à d'autres proches à moi. C'était pas très joyeux et c'était une période assez difficile et longue et j'ai pas osé en parler à d'autres adultes. C'est donc un ami à moi de mon âge qui m'a aidé à me sortir de là.
Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Radio Judaïka Strasbourg. Vous venez d'entendre un témoignage anonyme d'une élève qui a subi le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, ce sera le sujet principal de cette émission. Autour de cette table, pour nous en parler, nous avons Monsieur Herman.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur au lycée Rudloff, lycée qui a participé donc à un projet sur le cyberharcèlement, donc nous allons un peu plus détailler par la suite. Et Charline, vous êtes donc déléguée de classe de cette première STMG à Rudloff.
En effet, bonjour.
Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on, dans un premier temps, effectivement, donc on a ouvert sur un témoignage anonyme recueilli dans le cadre de ce projet sur le cyberharcèlement. Monsieur Herman, est-ce que en quelques lignes, vous pouvez nous parler de ce projet, comment il vous a été présenté et pourquoi il vous a semblé pertinent et intéressant que votre classe y participe ?
Alors, le projet m'a été présenté par la conseillère principale d'éducation, Madame Rotten-Virger, que je salue. Qui s'est dit effectivement que sur la classe de première STMG qui avait eu un début d'année plutôt compliqué, hein, donc c'est, il faut savoir que c'est une ouverture de section STMG sur le lycée Rudloff cette année, on avait une classe plutôt hétérogène, c'est-à-dire avec effectivement hein, des élèves qui venaient d'un petit peu tous les milieux, des personnes qui voulaient absolument faire cette section, d'autres qui ne savaient pas trop, d'autres qu'on pouvait effectivement faire progresser. L'année avait plutôt mal commencé, on va pas se le cacher. Il y avait des soucis entre les élèves, des soucis aussi bien en termes de comportement qu'en termes de rejet. Et notamment une des camarades qui était plutôt affiliée à la communauté LGBT a subi des violences dès le début de l'année. Les filles plutôt dans la classe, il y avait au début d'année une sorte de, aussi de clan entre les filles qui étaient plutôt qui se protégeaient, qui avaient peur, d'autres qui prenaient le parti de se taire aussi ou de prendre le parti des garçons qui étaient très bruyants en début d'année en tout cas. Et puis, au fur et à mesure, ils ont découvert leur section, ils se sont habitués aux spécialités, à ce qu'on leur enseignait, et ça allait mieux. Et le projet est arrivé à peu près à ce moment-là, il est arrivé à partir de janvier, donc de cette année, et effectivement, donc la directrice de la radio, Judaïka, vous êtes venue dans le lycée, vous avez pu découvrir la classe de 35 élèves, et vous avez présenté le projet. À ce moment-là, on a parlé du côté aussi qui était Radio La Judaïka, qui est effectivement une radio qui appelle en tout cas, qui est affiliée à la communauté juive, dans le nom en tout cas, hein, et vous nous avez par contre bien expliqué que c'est juste une affiliation et qu'en aucun cas la radio ne prend le parti d'une confession ou d'une autre, donc vous nous avez rassuré sur ça. Message qu'on a transmis d'ailleurs aux élèves et qui est plus ou moins bien passé au départ. Je pense que vous en êtes rendu compte quand vous êtes venu dans la classe. Et pourtant, le sujet en lui-même, le cyberharcèlement, ça, c'était le mot qui les a tous fédérés. Vraiment, on a senti tout de suite, quand ça a été prononcé, quand le thème a été prononcé en tout cas, qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait des choses à dire pour tous les membres de la classe. Voilà. Donc c'est avec un grand plaisir hein, que j'ai accepté ça. Donc je leur ai proposé, j'ai vu leur enthousiasme, j'ai vu leur motivation. Et donc du coup, on a décidé de le faire ensemble avec la classe. Par la suite, comment ça s'est déroulé, je ne vais pas faire trop long, hein, mais on a fait une première séance, c'était une sorte de brainstorming. Hein, je rappelle que c'est des élèves en STMG, hein, donc, qui se destinent à plutôt des études dans le domaine du management. Donc on est très dans les brainstorming. Qu'est-ce qu'évoquait le mot cyberharcèlement ou harcèlement tout court pour ces élèves-là? Et là, il y a beaucoup de mots qui sont sortis. C'était très, très intéressant comme première séance. Hein, je pense que Charline confirmera. On avait tout. Dès la première séance, on avait presque tous les mots. Alors, les mots MAUX, hein, bien sûr, que donne le cyberharcèlement sur l'esprit de nos jeunes. Et si je devais faire un résumé sur tout ça, je retiendrais le mot piège, qui n'a pas été cité. Mais qui, si on met tout bout à bout, hein, on avait violence, mal-être, et puis toutes les formes, hein, tout simplement, on ne va pas revenir dessus, on les connaît malheureusement, toutes les formes, mais aussi ce que ça crée, et c'est vrai que le mot qui moi ça m'a inspiré, c'est le mot piège. Je reviens encore sur ce mot piège suite à une deuxième séance, où là j'avais demandé aux élèves de choisir un message. Un média, donc ça pouvait être une vidéo, ça pouvait être une affiche, ça pouvait être un message radio, ça pouvait être n'importe quoi, qui selon eux définit le cyberharcèlement. Et séance très très intéressante, et après donc le groupe ayant choisi la vidéo devait passer devant la classe, le diffuser le média choisi et expliquer pourquoi ce média. Et voilà, c'était très intéressant, on a eu beaucoup de choses différentes. Et la vidéo qui a remporté le plus d'adhésion, on va dire, c'était une vidéo qui... Alors, je ne saurais plus retrouver sur Internet, peut-être qu'il faudrait que je demande à vos camarades, Charline. Mais c'était une présence... Enfin, le cyberharcèlement, en tout cas, était montré comme une présence noire, sombre, informe, et qui se promenait sur les esprits d'un peu toute la génération, finalement, de ses élèves. Donc c'est quelque chose de sournois, encore une fois, le mot piège. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que ça vous prend, eh ben, c'est comme un tourbillon, et puis on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Et d'ailleurs, on s'est attaché à essayer de trouver des solutions, hein, tout ça, parce qu'il y en a, mais je pense qu'aujourd'hui, ça, les solutions, c'est plutôt aux élèves d'en parler. Mais dans tous les cas, ça m'a surtout cette séance avec avec leur personnification finalement du cyberharcèlement, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu à quel point ça leur faisait du mal et à quel point ils avaient envie de s'exprimer dessus. Et ça, pour ça, voilà, ce projet a été un vrai déversoir pour certaines personnes et un vrai révélateur d'ailleurs, hein, parce que certains élèves, en présentant leurs vidéos, je pense notamment à deux élèves qui sont d'habitude des élèves qu'on n'entend pas forcément hein, dans la classe. Et qui là, en présentant leurs vidéos, se sont révélés un talent oral parce qu'elles étaient habitées, tout simplement.
Et vous, Charline, quand votre professeur vous a annoncé que vous alliez travailler sur un projet de cyberharcèlement, un projet radio, donc média qui n'est pas forcément un média de prédilection par rapport aux jeunes gens de votre âge, comment vous avez appréhendé cette nouvelle? Comment vous vous êtes dit « Ah bah c'est un super challenge » ou « Ça va être compliqué, la radio, je ne sais pas trop ». Comment c'est arrivé? Comment vous l'avez pris?
Je dois dire qu'au début, c'était forcément un peu flou avant qu'on trouve comment réaliser des plans et trouver des idées de projets concrets à réaliser en audio, tout simplement. Mais en réalité, j'étais plutôt contente que ça tombe sur ce sujet parce que c'est quand même quelque chose de très actuel. Et quand on sait que toute ma génération est sur au moins un écran quasiment toute la journée, c'est... En fait, on a tous été touchés de près ou de loin au moins une fois au cyberharcèlement, que ce soit en étant du côté de la victime, de l'agresseur, ou même passivement en passant à côté, sans le voir ou en le remarquant, mais en ne témoignant pas ou juste en l'ignorant. Mm-hmm. Donc je pense que c'est quand même un sujet important à toucher, rien que pour repérer les signes ou ce genre de choses, ou même inciter les victimes à en parler tout simplement.
Alors vous, vous êtes partie sur un projet de recueillement anonyme de témoignages. Certains de vos camarades ont décidé de faire des micro-trottoirs. Ils sont donc partis à la rencontre des Strasbourgeois. Et voici ce qu'ils ont recueilli.
Je pense que la question, c'est surtout de se demander qu'est-ce que c'est le harcèlement.
C'est la première cause de suicide chez les jeunes.
C'est un fléau qui touche de plus en plus. Ça existait déjà chez les jeunes à mon époque, mais c'est en train clairement d'empirer avec l'ampleur des réseaux sociaux.
C'est un fardeau depuis l'arrivée des réseaux.
Il faut pas hésiter à se dire, bon, ça suffit, quitte à quelquefois s'opposer au groupe.
Et ça prend de l'ampleur depuis quelques années, environ 10 ans.
Il faut que chacun s'éduque soi-même, éduque les autres. Je pense que ça concerne tout le monde à tout âge.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ces premiers témoignages, Charline ?
Je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le fait qu'il faut s'ouvrir à ce genre de sujet, bien que ça puisse être tabou, parce que ça peut toucher à la vie privée, souvent. Ça touche très souvent à la vie privée. Et en fait, je suis contente de voir qu'on est un peu tous d'accord pour aider d'une manière ou d'une autre.
Et vous, Monsieur Herman ?
Moi, ces premiers témoignages, surtout effectivement la dame qui a l'air d'avoir peut-être mon âge, qui sait, ça m'évoque juste une chose, c'est-à-dire que moi j'ai vécu du harcèlement, du harcèlement quand j'avais l'âge de mes élèves en fait, je ne l'aurais pas dit, c'est pour ça aussi que le sujet me touche un petit peu. Moi, cette forme de harcèlement, j'allais voir ma grand-mère, je passais par un parc, et à chaque fois que j'allais dans ce parc, au retour, donc quand ma grand-mère me donnait un petit peu d'argent, effectivement, ils étaient là, ils avaient 3 ans de plus que moi, plusieurs en bande, et ça durait un mois jusqu'à ce que je revienne plus et que j'aille plus voir ma grand-mère à cause de ça, justement. Et je me dis, mais c'est rien par rapport à ce que les élèves d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux peuvent vivre, parce que moi, c'est à la limite, je rentrais chez moi. Et puis c'était entre guillemets terminé, même si ça occupait mon esprit quand même. Mais là, ils rentrent chez eux, ils sont sur un outil sur lesquels ils peuvent eux-mêmes subir du harcèlement. Ils n'ont plus de manière ils n'ont plus de manière d'y échapper quand ils y sont confrontés. C'est quand même incroyable. D'où effectivement, alors je ne vais pas revenir sur les réseaux sociaux, ça a plein de bons côtés, mais il y a une forme d'emprisonnement déjà. Sans être cyberharcelé. Alors quand on se fait cyberharceler, c'est vraiment, là on rentre dans une toile qui est un peu, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Et le but, je pense, de cette émission aussi, c'est vraiment de donner des solutions. Et ça, encore une fois, je laisse les élèves s'exprimer sur ça.
Charline, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Ah oui, je suis assez d'accord parce que c'est très contradictoire. La plupart des gens vont sur les réseaux sociaux pour trouver un échappatoire au monde réel, pour vivre la vie d'une manière différente, souvent enjolivée, suivre les gens qui font rire. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, même sur cet échappatoire, on peut trouver une forme d'agression ou d'agressivité, quelle qu'elle soit.
D'où la notion de piège, le fameux piège dont vous parliez. Parce que moi, j'ai souvenir dans une des premières fois où je suis venue, effectivement, je pense que c'est la première fois quand je suis venue dans votre classe présenter le projet, on a conclu effectivement que c'était par le téléphone, dont on ne se sépare jamais, qu'arrivait principalement ce problème. N'oublions pas de préciser que le cyberharcèlement, ce n'est que du harcèlement démultiplié à l'infini grâce aux réseaux sociaux. Et que pourquoi on ne se sépare pas de son téléphone ? Pourquoi on ne l'éteint pas la nuit ? Pourquoi on est attiré constamment par ce qui est diffusé sur ces écrans, cette espèce d'addiction qui est une forme autre de drogue. On a besoin de lire des choses, on a besoin effectivement de voir ces vidéos de personnes qui nous font rêver.
Mais c'est toute leur vie aujourd'hui.
C'est toute leur vie, effectivement.
C'est une génération qui ont toute leur vie sur ces réseaux. C'est leur manière de sociabiliser, c'est une manière de... Donc ils n'ont pas le choix, quelque part. Ceux qui n'utilisent pas les élèves aujourd'hui, et encore, même pas que les élèves, regardez-nous. Alors nous, peut-être qu'on peut encore s'en passer, ça dépend, parce qu'on a encore un contact qui est différent. différent. Mais eux, leur génération, en plus avec le Covid, en plus avec ces événements qui vous avez raison, cette addiction, et puis c'est cette façon de nous pousser sans arrêt à vivre sur les réseaux, à montrer notre vie sur les réseaux, cet accro au like. Attention, on n'est pas accro au réseau social, hein. On est accro au like et aux différentes techniques marketing pour rejoindre un peu le cours.
Le like, forme de reconnaissance.
Alors,
de valorisation.
Mais tout à fait. Et ils l'ont très bien compris. C'est ce que j'enseigne à mes élèves. Alors parfois, ça ne leur fait pas plaisir, c'est sûr. Mais quand on leur montre un petit peu l'envers du décor, ce qu'il y a derrière, parce que quand on leur enseigne en STMG, des techniques des techniques marketing, c'est exactement ça. Mm-hmm. On leur apprend à faire, entre guillemets, ce dont ils sont victimes. Et donc, c'est passionnant d'ailleurs de tourner ça. Et parfois, c'est vrai que certains élèves ne l'acceptent pas.
L'envers du décor du ciblage.
Tout à fait. Et pourquoi est-ce que vous êtes accro à vos réseaux? Alors, quand on leur explique pourquoi, je vous avoue qu'ils ne sont pas prêts à accepter, pour beaucoup, dans la classe d'ailleurs. Mais c'est comme ça, il faut bien les confronter à pourquoi ils ne se sentent pas si bien aussi.
On entend d'autres témoignages recueillis lors de ce micro-trottoir.
C'est plus fréquent qu'on le pense.
Aujourd'hui, on n'en parle même pas assez.
C'est quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver.
C'est une honte.
Ça devient de plus en plus fréquent.
C'est un sujet grave, selon moi. C'est déjà ça la première étape, c'est que ça sorte du réseau. Déjà, s'ils viennent nous en parler, c'est déjà une bonne chose.
Il y a des associations aussi, des numéros à contacter.
Et on met en place des solutions et on aide les élèves.
Alors, je précise que ces micro-trottoirs donc, ont été effectués par certains de vos camarades. À Strasbourg, on a eu vraiment, je dirais, un panel très, très large. Ça allait du collégien à la grand-mère, hommes et femmes contondus. On a eu des profs, on a eu des surveillants. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il existe des solutions. J'aimerais en parler avec vous, Charline. Est-ce que, vos camarades, les gens de votre génération, sont quand même informés de toutes ces solutions, puisque c'est une grande... C'est un grand sujet de préoccupation. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation et le gouvernement aussi ont vraiment mis beaucoup, beaucoup de moyens pour essayer de l'endiguer. Est-ce que vous êtes suffisamment informé?
Honnêtement, je ne pense pas, parce que j'ai eu des amis sur Internet qui sont cyberharcelés et qui, de temps en temps, font fuiter leur mal-être. Mais souvent, ce qui ressort, c'est « Ah, j'ai peur d'en parler à des adultes », c'est souvent le cas. Les numéros à appeler, je pense qu'on n'a pas ce réflexe encore de chercher les numéros à appeler ou d'aller de nous-mêmes appeler. C'est vrai que c'est souvent cette... J'ai un peu du mal à dire que c'est du déni, mais presque, parce que on a tendance à se dire que « Ah, mais ça ira pas plus loin », alors que même si ça va pas plus loin, si ça t'affecte, c'est qu'il y a déjà un problème. Et je pense qu'il faut pas avoir peur. Et si tu as peur de parler à telle personne, il y aura toujours des solutions. Moi, par exemple, ce que je conseille souvent, c'est dans les milieux scolaires d'aller voir... soit des surveillants que vous appréciez, parce que c'est souvent des gens avec qui il est facile de sympathiser, ou l'infirmière scolaire, qui a aussi un rôle de psy, généralement, à qui on peut vraiment s'ouvrir. Et je tiens quand même à dire, mais les médecins sont tenus au secret professionnel. Vous n'avez pas à avoir peur, si vous êtes touché par du cyberharcèlement ou du harcèlement, à parler à des gens qui, de toute façon, ne le diront à personne et pourront vous guider dans cette épreuve.
Les chiffres sont assez inquiétants. Hein. Un écolier, un élève sur 10 est victime, d'après ce qu'on sait. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de non-dit, d'omerta. On a peur. On a peur des représailles, entre guillemets, parce que c'est un effet de groupe aussi. C'est un effet de meute. Il y a une impunité par rapport à un anonymat, un pseudo. Est-ce que vous, monsieur Herman, des élèves sont venus vous faire part de ces cas? Et qu'est-ce que vous leur avez conseillé?
Alors moi, je n'ai pas d'élève personnellement qui est venu me voir par rapport à du cyberharcèlement, en tout cas. Par contre, oui, au niveau du harcèlement dans la classe, un petit peu, mais ça, c'est autre chose, encore une fois. Mais du cyberharcèlement, non. Et d'ailleurs, c'est encore une fois, moi, quand j'entends toutes les solutions, elles sont en place, c'est bien. Les gouvernements mettent des solutions, mais encore une fois, les gouvernements mettent peut-être des solutions qui sont un peu archaïques par rapport à la forme elle-même de harcèlement. On est sur du cyber-harcèlement, donc il faut des solutions cyber. Je ne sais pas, je ne comprends toujours pas, moi, personnellement, pourquoi il n'y a pas des personnes qui peuvent venir en aide, mais qui sont joignables tout le temps par Zoom, par des outils qui sont aujourd'hui... Enfin, je peux faire de publicité, au contraire, hein, mais tout cas par des outils collaboratifs qui, aujourd'hui, sont là, qui sont utilisés par les jeunes et qui sont immédiats. Parce que la forme, quand Charline l'évoquait, un numéro à appeler, bon, ça marchait dans les années 80, 90 encore, mais à un moment donné, il faut quand même prendre le problème tel qu'il est, il est sur la toile. Donc il faut des solutions sur la toile, des solutions immédiates, rapides. Et puis Charline disait quelque chose de très intéressant, c'est ce côté, ça ne peut pas aller plus loin. Mais si, ça peut toujours aller plus loin. Un cyberharceleur, et on l'a ça dans tous les témoignages, c'est quand il n'est pas arrêté, il continue. Donc, et puis comme tous les harceleurs, d'ailleurs, au passage. Donc là encore, il faut... OK, il y a des moyens qui sont là, mais il faudrait qu'ils soient mieux orientés. Encore une fois, les moyens sur Internet, ce n'est pas si cher. Il suffit de trouver les bonnes personnes pour développer les bons outils. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'il faut une forme adaptée, selon moi.
Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, Charline ? Vous avez lu tous les témoignages que vous avez reçus, cette détresse. Donc c'est vrai que vous avez reçu un peu ça vraiment frontalement. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Si vous deviez dire, bah oui, en fait, on n'y peut rien. Au contraire, ça vous a transformé ? Est-ce que ça vous a amené quelque chose, une réflexion autre, différente ?
Je ne pense pas honnêtement, mais c'est vrai que dans tous les témoignages, quels qu'ils soient, même des plus petits, si je puis dire, même si c'est un mauvais mot, étant donné que même un petit harcèlement peut être ressenti très gros, il y a une certaine forme d'impuissance dans tous ces témoignages et d'impression que rien ne peut nous sortir de cette situation et... C'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est le temps qui va changer les choses, alors que si on n'agit pas, le temps ne changera pas non plus. Moi, personnellement, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je ne sais pas.
Mm-hmm. C'est étrange, trop tôt ?
Je pense que c'est trop tôt, et puis que j'ai aussi un vécu qui m'a déjà fait grandir auparavant. Donc, je pense que c'est surtout difficile de répondre à ce genre de témoignage parce qu'il faut prendre tout avec des pincettes et puis éviter de poser des questions déplacées parce que ça peut faire ressurgir de très mauvais souvenirs et c'est pas du tout mon but en prenant des témoignages.
D'accord. Vous pensez qu'il faut du personnel vraiment habilité à recevoir les témoignages ça manque ?
Oui, je pense. Je pense que si on voulait des témoignages beaucoup plus précis, il faudrait, par exemple, faire appel à un psychologue ou quelque chose dans la psychiatrie, en tout cas, ou la psychologie. Parce que, moi, j'aurais peur, maladroitement, de faire du mal aussi à la personne.
En voulant l'aider, finalement,
exactement,
à empirer les choses.
Tout à fait.
Et Monsieur Herman, si vous deviez apporter une conclusion, vous nous l'aviez dit, vous avez vous-même été victime de harcèlement, vous avez pris l'initiative quand vous étiez jeune d'arrêter d'aller voir une personne chère, finalement, pour ne plus subir. On oublie de préciser que souvent, on vous attaque sur l'intime, hein, et que c'est souvent des personnes qui vous connaissent très bien. C'est là où ça fait le plus mal. Vous, par rapport à ce projet radio et donc sur cette expérience, sur cette classe, qu'est-ce que vous pensez que ça leur a apporté, au final ?
Déjà, je voulais remercier RJS pour avoir permis ce projet à cette classe-là. Qu'est-ce que ça leur a apporté, beaucoup de choses. Comme disait Charline, je pense qu'ils ne réalisent pas forcément encore bien la chance qui leur a été donnée d'être des porte-voix de leur génération sur un sujet majeur. Avant tout, c'est ça que ça leur a apporté. Et quand je disais que le mot a tout de suite éveillé chez eux une flamme, clairement je peux le dire, une flamme de travail, hein, bien sûr, ça fait plaisir quand même de voir qu'ils en sont conscients et qu'ils étaient prêts à faire énormément de choses. Alors certes, c'était un petit peu fouillis, ça partait un peu dans tous les sens, on a essayé de canaliser tout ça.
Il y avait une volonté, il y avait une envie.
La motivation était clairement là, et pour ça, encore une fois, je remercie les pouvoirs publics, la radio qui a permis de faire ça.
La ville de Strasbourg, qui est effectivement notre partenaire sur ce projet, qui nous a vraiment aussi beaucoup aidé pour qu'on puisse avancer et essayer d'avancer sur ce phénomène. Je pense qu'on n'en a pas fini, on en est qu'aux prémices, parce que c'est pas tout d'en parler. Maintenant, il va falloir trouver des solutions concrètes, comme vous disiez, des solutions adaptées à votre génération, qui n'a pas forcément le réflexe d'appeler un numéro, mais qui ira plutôt vers une vidéo ou un texto, un SMS, ce genre de choses, finalement. Charline, je vous laisse conclure cette émission.
Je voulais juste dire que j'étais pas d'accord par rapport au fait qu'on en est aux prémices. Enfin, oui et non, parce que dans un sens, ça ne s'arrêtera jamais tant que les réseaux et Internet existent. Tout comme le harcèlement n'a jamais disparu et il a toujours été là, peu importe les époques. Donc, en parler, vraiment. Même si ça semble archaïque, peut-être se renseigner sur les numéros qui peuvent aider à aller voir des médecins, que ce soit un généraliste ou scolaire, ou des amis à qui vous faites confiance, et j'insiste sur à qui vous faites confiance, et ne vraiment pas hésiter et pas avoir peur. Il y aura toujours des moyens, que ce soit légaux ou des aides en général, pour se sortir de ce genre de situation.
Merci Charline, en tout cas, pour ces belles paroles. Il y a de l'espoir, il faut juste ne pas hésiter à en parler. Monsieur Herman, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous Charline d'avoir été la porte-parole de votre classe. C'était une émission spéciale sur le cyberharcèlement, projet porté par la première STMG du lycée Rudloff à Strasbourg. Restez à l'écoute de nos programmes. Merci.